Cogeco Nouvelles.
18 avril, jeudi, ici Guy Simard, voici les nouvelles. Le gouvernement du Québec imitera le fédéral et augmentera lui aussi les impositions sur le gain en capital. Il n'aura fallu que 48 heures au gouvernement Legault pour emboîter le pas au fédéral, au gouvernement Trudeau, à ce sujet. Le ministre des Finances, Éric Girard, a donc choisi de faire passer lui aussi le taux d'imposition de 50 à 66% pour un gain en capital dépassant 250 000 $. En principe, cette décision devrait permettre au Trésor du Québec d'engranger 3 milliards de plus sur 5 ans. Mardi, la ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland, avait annoncé exactement la même mesure qui, à l'échelle canadienne, devrait rapporter près de 20 milliards sur 5 ans. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a fermement nié à notre antenne aujourd'hui les allégations des omnipraticiens qui prétendent que le gouvernement souhaite déchirer l'entente sur les soins de première ligne. Les généralistes en ont, contre la fin le 31 mai, des primes de 120 $ versées pour chaque patient orphelin pris en charge. Le ministre estime que le guichet d'accès à la première ligne est une nette avancée pour les patients orphelins qui souhaitent consulter dans un délai raisonnable. Pour le rendre meilleur, dit-il, il faut retravailler cette entente avec les omnipraticiens.
Il y a seulement 10 % des personnes qui passent par le gap qui sont pas capables d'avoir un rendez-vous dans un délai raisonnable. 10 %. C'est sûr que c'est eux autres qu'on entend parler, puis avec raison. Ce 10 %-là, c'est sur ça que je travaille. Et c'est pour ça que je dis, si, par exemple, des médecins ont été payés pour prendre des gens en charge, mais qu'ils ont pas vu, on n'a pas atteint nos objectifs.
Hydro-Québec et le Conseil des Mohawks de Ganawagé ont confirmé tous deux un partenariat dans le projet d'exportation d'électricité vers l'État de New York. Cette communauté autochtone de la rive sud de Montréal détiendra une participation minoritaire d'au moins 10% dans cette ligne d'interconnexion Airtel-New York. Cela leur permettra de tirer un revenu de dividendes important. Le PDG d'Hydro-Québec, Michael Sebia, a parlé du rendement attendu pour la communauté.
C'est à peu près 8,2%. Ça, c'est le niveau du rendement que le Conseil de Ganawagé va réaliser sur leur investissement, soit à 10 % ou soit à un niveau plus élevé.
Le prix de l'essence à la pompe a explosé ces dernières heures au Québec. Il a grimpé à 1,91 $ le litre dans la région de Montréal, plus haut niveau en 2 ans. Le passage à l'essence d'été, présumément plus cher à produire, et une augmentation des prix du brut expliquerait cette augmentation, selon Pierre-Olivier Pinault. Il est professeur au HEC Montréal et responsable de la chaire de gestion du secteur de l'énergie.
Ça peut redescendre, mais comme on voit les tensions au Moyen-Orient, l'Iran qui ça semble pas se dégrader et la situation ne semble pas s'envenimer beaucoup plus au Moyen-Orient, mais il y a rien des tensions là-bas, ça peut affecter les marchés du pétrole, mais si tout reste calme et si surtout la demande de l'été ne monte pas trop.
C'était ce soir l'avant-première du film sur l'histoire des expos qui s'intitule « Nos amours ». Le cinéaste et amateur de baseball Robbie Hart nous parle de ce projet qui s'est échelonné sur une dizaine d'années.
Le film opère à deux niveaux. Le film opère au niveau de l'effort de ramener les expos à Montréal à partir de 2012 et la conférence de presse de Warren Cromartie jusqu'en 2022 où MLB a mis fin au projet Bill Sauer, t'sais, avec Tampa. Et en même temps, le film est l'histoire biblique des expos. Donc, tous les grands moments des expos, à partir de 69, jusqu'à la fin, sont racontés dans le film.
Le film sortira en salle le 3 mai et c'est maintenant officiel. Le Canadien possède les 5e meilleures chances de choisir premier lors du prochain repêchage. Vous écoutez Cogeco Nouvelles.
Météo.
4 degrés, généralement nuageux à Québec cette nuit. 15 demain, 40% de risque d'averse. 10 pour samedi, soleil nuage. 8 dimanche, 30% de risque d'averse. Trois-Rivières, 7 et 14. Bruine mêlée de pluie. Sherbrooke, 5 et 17. Ce sera demain généralement nuageux. Cette nuit, un peu de pluie. Gatineau, 7 et 16. Des averses, tout comme à Montréal, 7 et 13.
Cogeco Nouvelle.
Ici Madame Fafard et Jean-Claude Gélina.
Ah ben!
Ne manquez pas.
Ah ben!
Sur CFIX FM 93, Rimouski.
Ah ben!
Les petites vites en semaine.
Les amateurs de sport, l'émission de sport numéro 1. Jusqu'à minuit, vous écoutez Mario Langlois.
Alors, c'était l'heure du bilan chez le Canadien de Montréal hier. On en a parlé longuement et c'est le même exercice dans plusieurs marchés de la Ligue nationale où les saisons sont terminées. C'est pas le cas partout puisqu'il y a quand même 6 matchs, donc 12 équipes en action ce soir. Tout à l'heure, on a abordé la situation des Sénateurs d'Ottawa. Vous avez entendu Barry Tkachuk. Maintenant, tournons-nous du côté de Philadelphie. On retrouve notre ami Daniel Brière. L'avant-dernier à avoir porté le numéro 48, maintenant endossé par Lane Hutson. Tout à l'heure, Jean-Jacques Desgnaux sera avec nous. Il a été le premier à le porter à Montréal. Daniel Brière est avec nous. Salut, Daniel.
Salut, Valérie, ça va bien?
Ça va très bien, toi-même.
Ben oui, écoute, un peu déçu de la tournure des événements les derniers jours, mais très, très fier là, de ce que notre équipe a fait cette saison, même si ça se termine en faisant pas les séries de notre.
Comment tu fais le bilan d'une année comme ça où il y a effectivement, bon, tu sépares ça en portions de saison, bon, il y a la portion où les Flyers surprennent, où on parle de séries, où vous êtes dans le portrait, puis là, ben, il y a la fin de saison. Fait que comment tu ramasses tout ça ensemble puis tu te fais une tête par rapport à ce que ton équipe a de besoin pour la suite des choses?
Ouais, ben écoute, tu sais, il y a personne qui aime perdre, donc c'est toujours difficile d'accepter la défaite puis de d'arriver si près du but. La fin de saison, c'est pas terminé comme on le voulait, mais c'est important, surtout de mon côté, de prendre un peu de recul, de regarder ce que les joueurs puis le groupe d'entraîneurs a effectué quand même cette saison. Il y a beaucoup, beaucoup de positifs. C'est pas un secret, là, en début de saison, il y a pas grand monde qui s'attendait à voir les Flyers faire partie du groupe qui se battrait jusqu'au match 82 pour une chance en séries éliminatoires. Fait que pour nous autres, on est fiers de ça, même si on a raté les séries. Pour les joueurs, c'est difficile d'accepter en ce moment. Mais pour l'organisation, là, ça a été un pas vers l'avant très, très important cette saison.
Avez-vous une bonne compréhension du pourquoi votre équipe a glissé dans le dernier droit?
Écoute, il y a plusieurs raisons à ça. Premièrement, si tu regardes à travers la Ligue, la majorité des équipes ont eu à faire face à ce genre de glissade-là au cours de la saison. De notre côté, on ne l'a pas vraiment vécu jusqu'à ce moment-là, jusqu'en fin de saison. Donc, le timing était pas idéal. Mais tu sais, il y a plein d'autres choses qui est arrivé aussi. T'sais, on a perdu notre gardien numéro 1. Urson a fait du bonbon, très bon travail. Je pense qu'il a été un peu brûlé vers la fin de la saison. De jouer autant de matchs. Je pense pas qu'il y a personne qui s'attendait à ce que Sam Urson joue tout près de 50 matchs là, dans l'uniforme des Flyers cette saison. L'échange de Sean Walker nous a fait mal aussi. Puis je le savais que c'était pour faire mal à notre défensive. Mais écoute, on gardait au plan
à long
terme, pas juste dans le présent. C'est ça. Fait que on se doutait que c'était pour nous faire mal. Mais en même temps, quand on a échangé Sean Walker, on a perdu Drysdale, Sealer et Ristolainen presque en même temps. Fait que, on a perdu 4 défenseurs de notre groupe de 6 où on était on a dû jouer là, sans eux pendant tout près de 3 semaines. Il y a plusieurs raisons à tout ça. Mais le fait change pas que on a eu une glissade, les choses cliquaient pas, on était plus capable de marquer de but, on était plus capable d'arrêter, de se faire marquer des buts contre nous. Ça a été un très mauvais timing, mais à travers tout ça, les meetings que j'ai eu avec les joueurs les deux derniers jours, les gars réalisaient que c'était une très bonne expérience qu'ils ont passé au travers, puis d'apprendre à mieux gérer ce stress-là de fin de saison.
John Tortorella a d'ailleurs dit qu'il était content que l'équipe puisse jouer des matchs comme ça parce que tu veux savoir, tu sais, comment tes gars vont se débrouiller quand il fait chaud dans la cuisine, puis ça te donne de l'information, puis pas juste de l'information, ça te donne du vécu, puis t'espères que ceux qui ont peut-être pas bien réagi vont mieux réagir dans le futur. La question, ben, je te la pose, t'es le DG. Je sais que Torch est pas juste un coach chez vous, il est comme quelqu'un qui fait partie aussi, j'ai l'impression, de la direction. Puis, je sais pas ce que tu peux me partager par rapport à un meeting de fin de saison que tu as eu avec, mais tu trouves-tu qu'il a trouvé le bon ton pour parler à son club ou parler de son club dans le dernier droit?
Oui, j'ai pas eu de problème avec ça. Il a challengé les joueurs, il a poussé. Puis des fois, ça a fonctionné, des fois, ça a moins fonctionné, mais il n'y a pas de problème de ce côté-là. Je crois encore que Tours, c'est la personne qu'on a besoin derrière le banc. On a encore une très, très jeune équipe. Je suis pas certain que ça va être facile l'an prochain. Les attentes vont sûrement être plus élevées du côté des fans. Puis on a encore beaucoup de travail à faire. Je crois pas qu'on ait, dès l'an prochain, une équipe qui va aspirer à la Coupe Stanley. On espère, c'est que l'équipe va continuer à s'améliorer, qu'on va continuer à grandir, à développer nos jeunes joueurs. Mais on a encore beaucoup de travail à faire. Puis je pense qu'un gars comme John Tortorella est excellent en ce moment pour travailler, surtout avec notre jeune équipe.
Dis-moi, est-ce que, cependant, tu sais, on changera pas la personne, tu sais, John Tortorella s'est forgé un nom, puis tu sais, il a fait un bon boulot, il a amené l'équipe, là, vous étiez dans le portrait des séries, c'est important de le préciser, puis c'est dans des adresses aux médias, on n'est pas là dans le vestiaire quand il parle aux joueurs, je sais pas comment il les challenge à l'interne, mais, tu sais, puis lui-même peut pas se dénaturer, mais je sais pas si lui-même, il va d'une introspection par rapport à des fois, tu sais, tu peux essayer de lancer des dards ou d'activer des leviers, mais pas tout le temps avoir les résultats souhaités. Tu sais, ça contraste beaucoup, par exemple, avec la façon de parler de Martin Saint-Louis, qui s'inspire beaucoup de Tort à bien des égards. Mais tu penses-tu qu'il y a une introspection nécessaire par rapport à ça, ou c'est l'image des Flyers? Ah. Les Flyers, c'est des durs, c'est des cols bleus, puis ah ouais.
Non. Non, pas du tout. Tort est toujours en train de s'évaluer lui-même. Puis c'est une des choses qui rend Tort très très proche de ses joueurs, c'est qu'il est capable de se rendre vulnérable face à ses joueurs. Il a pas peur d'admettre ses erreurs. Il l'a fait à plusieurs reprises pendant la saison. Il se plante devant tous ses joueurs au milieu de la chambre. Puis il accepte que les joueurs, pas qu'il l'attaque, mais que les joueurs le questionnent des fois sur certaines décisions ou sur la façon de jouer. Il est très, très ouvert à ça. Puis c'est ça qui fait que les joueurs le respectent beaucoup. Il y a toujours des joueurs ici et là. On entend quelques joueurs se plaindre. Des gars comme Dubinsky qui a pas aimé Tort. Il y en a quelques-uns comme ça, mais la majorité des joueurs qui ont joué sous la tutelle de John Tortorella, qui nous arrête, qu'on leur parle, ils disent tout le temps qu'ils ont adoré jouer pour Torts, puis ils l'ont rendu, tu sais, que Torts les a rendus meilleurs. Tu sais, je pense à un gars comme Todd Hartnell, qui a fini sa carrière avec John Tortorella, que ça a été très, très difficile, puis à maintes reprises, il nous répète qu'il aurait aimé avoir un John Tortorella jeune dans sa carrière pour devenir un meilleur pro plus tôt dans sa carrière. Puis je le sais, comme tu as mentionné, que Martin Saint-Louis est très, très proche avec John Tortorella, puis qui se fie à lui beaucoup. C'est un coach qui a beaucoup d'expérience, puis pour l'instant, il est notre entraîneur, puis on croit vraiment qu'il est la personne pour continuer d'améliorer cette équipe-là.
As-tu déjà une idée en tête de ce que tu as envie d'essayer de faire cet été? Parce qu'il y a ce qu'on veut faire, puis il y a ce qu'on peut faire, hein, Daniel, dans la Ligue.
Ouais, on a tous des joueurs qu'on aimerait avoir, tu sais, des McDavid, des Austin Matthews et compagnie, malheureusement. C'est un peu trop tôt. J'ai fini aujourd'hui là, mes meetings avec les joueurs. J'ai pas eu la chance de parler à nos entraîneurs, de m'asseoir avec les entraîneurs. Donc, il me reste ça à faire avant de penser à un plan d'attaque. On veut réévaluer un peu en gros ce qui a fonctionné, ce qui a moins fonctionné. Tu sais, c'est sûr que tu regardes du haut vite fait comme ça, les gens vont dire, ben écoute, l'avantage numérique a pas fonctionné. Le désavantage numérique a été excellent. C'est facile de loin, tu sais, d'évaluer ça, mais on veut essayer d'entrer plus en détail pour savoir ce qui s'est passé exactement. Ça va prendre encore quelques semaines. Je te dirais là, qu'il se passera probablement pas grand-chose avant le repêchage. C'est probablement là que les choses vont commencer à bouger un peu là, pour pas mal toutes les équipes.
Je sais pas si tu peux nous partager quelque chose par rapport à quel genre de meeting tu as eu avec ton capitaine Sean Couturier, à qui il reste 6 grosses années de contrat avec l'équipe, qui est au cœur à un moment donné d'un moment d'insatisfaction de son coach. Fait que, y avait-tu quelque chose de spécial, fallait que tu abordes avec ton capitaine?
Non, on a jasé de ça naturellement, de son approche, de comment gérer tout ça. Pour Sean, ça a été une saison difficile. Puis comme je lui ai dit à Sean, moi ce qui qui m'amène beaucoup de confiance, c'est la façon dont il a joué en première moitié de saison. Je pense qu'après 41 matchs, il avait déjà 31 points.